Plus de 50 000 personnes disparaissent chaque année en France. La plupart d'entre elles sont retrouvées après quelques heures de recherche, mais des milliers restent introuvables. J'ai voulu savoir comment on supporte l'angoisse de l'absence, l'insupportable vide, et comment on fait face à l'inconcevable, le départ inexpliqué d'un être aimé, volatilisé du jour au lendemain. À quel détail peut-on se raccrocher pour tenir? Quel scénario faut-il écrire pour cultiver l'espoir? Et comment envoyer aux disparus un ultime message d'amour? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire d'Armelle. La vie de cette mère a basculé le jour où son fils, qui vivait une séparation difficile, est parti travailler en disant simplement « au revoir ». Je suis Olivier Delacroix. Soyez les bienvenus dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ». Le 10 mai 2011, Grégory part travailler comme tous les matins. Depuis 3 mois, cet homme de 35 ans fait tous les jours le même trajet en train depuis Meaux, où il vit chez sa mère, jusqu'à la gare de l'Est. Grégory travaille dans un restaurant de la capitale. Ce soir-là, il ne rentrera pas. Ni le soir suivant, ni le surlendemain, jour où sa mère Armelle, folle d'inquiétude, décide de prévenir les autorités. Et ce matin, c'est une maman toujours très angoissée que je rejoins à la gare de l'Est. Là où le téléphone de son fils a été géolocalisé pour la dernière fois, il y a à peine 11 mois.
Comment allez-vous?
Ça va.
Ça va? Doucement. On est à la gare de l'Est.
Oui. C'est
un endroit que vous connaissez bien maintenant.
Maintenant, oui.
Est-ce que vous pouvez me raconter pourquoi vous avez été amené à venir aussi souvent depuis ces derniers mois, depuis le 30 mai dernier, ici à la gare de l'Est?
Parce que le téléphone de Grégory a émis pour la dernière fois au mois d'août à la gare de l'Est.
Alors Grégory a disparu...
Le 30 mai
ouais.
2011.
Mm-hmm.
Il est parti de chez moi, il a dit au revoir et normalement il est parti travailler. Et depuis, plus de nouvelles.
Donc vous êtes venu à la gare de l'Est suite à cet appel des policiers qui avaient repéré ce portable.
Oui.
Quelle démarche vous avez commencé à entreprendre?
Eh bien, je suis allée au commissariat.
Oui.
Après, j'ai déposé les photos, je suis allée voir les pompiers, je suis allée voir la sécurité, les pharmacies,
ouais.
Les journaux, enfin...
Pourquoi ne pas avoir placardé, en fait? Parce que je sais que vous avez refusé que l'affiche soit placardée.
Oui, c'est pas moi qui l'ai refusé. C'est, c'est les autorités, c'est qu'ils m'ont dit qu'il ne fallait pas qu'elle soit placardée. Parce qu'en général, les personnes qui veulent pas, il y a des personnes qui ne veulent pas être trouvées. Et puis qui ne veulent pas qu'on les aperçoive, qu'on les reconnaisse et tout ça. Et ils vont partir ailleurs.
D'accord.
Et je me disais que ben, si Grégory était quelque part près de la gare de l'Est, ben, j'aimerais autant qu'il y reste pour qu'on puisse le repérer.
D'accord. Et qu'on puisse rétablir un contact.
Voilà.
Vous revenez régulièrement à la gare de l'Est ou alors
j'ai,
là
j'ai,
maintenant
j'ai beaucoup de mal.
J'ai beaucoup de mal
parce que je scrute les gens, je vais voir. J'ai beaucoup de mal même à revenir sur Paris.
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, Armelle, aujourd'hui?
Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on ne le retrouve pas là. C'est l'hiver, il est dans le froid. Tous les soirs, je me dis, mais où est-ce qu'il dort? Moi, je dors dans un lit. Mais lui, où est-ce qu'il dort? Moi, j'ai mon confort. Mais lui, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait?
Quand je vous écoute parler,
c'est
il est vivant pour vous?
Oui.
D'accord.
Pour moi, oui. Oui, j'espère de tout le cœur.
Non, c'est ce qui vous fait tenir encore aujourd'hui?
Voilà.
D'accord.
Armelle refuse d'imaginer le pire. Normal pour cette mère qui héberge son fils depuis 6 mois. Grégory, qui vient de se séparer de sa compagne, est au fond du trou. Armelle l'accueille alors chez elle pour l'aider à se reconstruire. La disparition soudaine de Grégory va amener Armelle à découvrir une information importante qu'il lui avait cachée.
Comment avez-vous été reçue au commissariat?
Très bien. Très très bien. J'avais peur qu'on me prenne pour une mère abusive, quand j'ai une mère c'est elle vient voir parce que son fils n'est pas rentré de la nuit. Mais non, là, franchement, j'ai vraiment senti que j'étais prise en considération. Ils m'ont tout de suite pris au sérieux. Ils m'ont demandé s'il avait l'habitude de partir comme ça, comment il était au moment de son départ, s'il était dépressif. Donc j'ai dit oui. Et tout de suite, ils ont organisé, ils ont dit qu'ils allaient voir, parce qu'il y a beaucoup de caméras à Meaux. Ils allaient voir sur les caméras de Meaux s'il était
paraissait
sur les voilà sur les caméras. Ils ne l'ont vu nulle part.
D'accord.
Même pas à la gare.
Qu'est-ce qui a pu arriver à Grégory? Quel est votre...
Je ne sais pas. Moi, au départ, j'ai pensé... Bon, au départ, je pensais à un suicide.
Est-ce qu'il avait des raisons très
mal
de se suicider?
Il était très mal, il était dépressif. Mm-hmm. Depuis sa séparation, il était dépressif.
Donc, il sortait d'une longue...
D'une rupture.
Il est là, il sortait... D'une longue liaison?
Oui, 7 ans.
7 ans?
Oui.
D'accord. Il s'était renfermé?
Beaucoup.
D'accord. Oui. Donc, lorsque vous allez chez les policiers... Je crois qu'il vous demande de fouiller dans ses affaires.
Oui.
Avez du mal à faire.
Beaucoup.
Pourquoi?
Parce qu'il a 35 ans, il a ses affaires, c'est son intimité. Mm-hmm. Et vraiment, j'ai dû me faire violence pour aller fouiller dans ses affaires, dans ses dossiers, parce que pour moi, ça ne se fait pas. Quoi. Mm-hmm. Et donc, j'y suis allée, et là, j'ai découvert que ça faisait 3 mois qu'il ne travaillait plus.
Donc vous avez découvert...
Je me suis aperçue qu'il avait le solde de tout compte de son ancien employeur,
ouais,
et qu'il n'y avait rien d'autre.
D'accord, donc il travaillait sur Paris. Hein.
Il travaillait sur Paris, oui.
Donc il partait le matin?
Tous les matins, il partait et il revenait le soir.
Et à cette époque, pendant ces 3 mois, où il vous ment en permanence?
Oui,
hein,
en permanence.
Vous ne remarquez rien de curieux?
Rien du tout. Je faisais confiance.
Donc, vous n'avez aucune idée de ce que Grégory faisait de ses journées avant ces 3 mois?
Aucune.
Ça, c'est assez troublant, non?
C'est, oui. Très.
Il vous manque une partie du puzzle.
Voilà.
Hein, dans cette histoire.
Une grande partie de l'histoire. Je n'ai jamais eu un tempérament dépressif, mais là, je sombre.
Mais il faut tenir.
Ah oui, je sais bien, tout le monde me le dit.
Vous avez des petits-enfants?
Oui.
Hein, vous avez d'autres enfants, donc...
Oui, j'ai 2 filles, j'ai 3 petits-enfants.
Comment est-ce que vous faites pour tenir, alors?
De temps en temps, on se met une grande claque, puis on dit qu'il faut y aller, parce qu'il y a les autres aussi, et puis s'il revient, il faut que je sois là, que je sois forte. Mm-hmm. Juste tant qu'il apparaisse, qu'il vienne, qu'il dise « bon, je suis là », il me manque.
Armel s'accroche à cette face cachée, cette part de mystère qui entoure son fils, pour se persuader qu'il est encore là, en vie, quelque part. Depuis 10 mois, elle a arrêté de travailler pour se consacrer aux recherches. Distribution d'affiches, rédaction de pages spéciales sur les réseaux sociaux, sans compter ses trajets Meaux-Paris en train qu'elle a refait tant de fois pour tenter de percer le mystère de cette disparition. Dominique, une de ses meilleures amies, a souvent été à ses côtés pour la soutenir.
Bonjour, comment allez-vous ?
C'est un garçon, on sentait qu'il n'était pas bien dans sa peau. Hein. Et en plus, il mentait beaucoup. Et quand quelqu'un ment, c'est qu'il y a toujours quelque chose derrière. Donc je pense qu'il faisait souvent marcher Armel. Je n'osais pas lui dire, mais quand il disait qu'il mettait très peu de temps pour aller sur Paris et qu'il allait travailler à des horaires dans la restauration, je ne trouvais pas ça très, très normal, mais je ne voulais pas l'inquiéter. Hein. Et c'est vrai qu'après, quand il a constaté qu'effectivement, il partait le matin et il n'allait pas travailler, qu'il revenait le soir... C'était effectivement, j'avais raison, quoi. Donc, c'est vrai que on n'ose pas inquiéter les gens, mais moi, je sentais bien qu'il la faisait marcher ou qu'il n'allait pas bien et qu'il lui disait pas. Le fait qu'il lui ait menti, il osait peut-être plus lui dire qu'il mentait depuis 3 mois, qu'il allait travailler puis qu'il travaillait pas. Et aussi pour pas qu'elle ait une opinion de lui dévalorisante. C'est vrai que pour les enfants, on a toujours envie de donner un bon côté à ses parents.
Meilleur. Ouais. Et quelle hypothèse pour vous est la plus plausible?
Pour moi, c'était qu'il avait fait une bêtise. Hein.
Moi, j'ai tout c'était suicidé.
Voilà, pour moi, c'était ça. J'espère pour Armel qu'il soit toujours vivant.
L'hypothèse du suicide est évidemment envisagée, mais si Grégory s'était donné la mort, n'aurait-on pas déjà retrouvé son corps? La police ne prend en charge les disparitions d'adultes majeurs que si les circonstances sont inquiétantes et peuvent faire penser à un meurtre ou à une séquestration. Les familles ont alors recours à des associations. À Meaux, je rencontre M. Coulon, président de l'ARPD, l'assistance et recherche aux personnes disparues. Un précieux soutien pour les familles en détresse, c'est lui qui a aidé Armel à rédiger l'avis de recherche de Grégory.
Souvent, quand on a des familles qui reviennent vers nous, elles ont toutes pratiquement le même sentiment qu'elles sont un peu abandonnées par les autorités. Mmh. C'est vrai que les services de police et de gendarmerie font un boulot extraordinaire, sauf qu'ils n'ont pas qu'un dossier à s'occuper, ils n'ont pas qu'une disparition, ils ont tout ce qui a trait à la police générale, à la sûreté, à la sécurité publique. Et donc il y a des gens qui travaillent sur ce dossier-là, pour faire court, pour certaines choses, ils sont obligés de demander au parquet, de demander au procureur, donc qu'il y ait des commissions rogatoires. Donc ça prend du temps. Donc pour la famille, ça ne va jamais assez vite. Grégory, il a 35 ans, donc au départ, donc, tout pour l'association, comme pour beaucoup de gens, tout laisse penser à une disparition inquiétante, sauf qu'au départ, il a été inscrit au fichier des personnes recherchées en disparition inquiétante, et c'est devenu une RIF.
Pourquoi ?
Allez me demander alors, pourquoi. Une RIF, c'est quoi ? Une recherche en intérêt des familles. Donc ça n'a plus du tout la même importance vis-à-vis des autorités. Une disparition inquiétante n'a pas la même valeur qu'une une recherche en intérêt des familles.
Et comment se fait-il ?
Alors, pourquoi ? Alors là, moi, je suis incapable de répondre à la question, mais je trouve anormal que ce dossier-là ne soit pas pris plus... qu'il n'y ait pas davantage de moyens qui soient mis sur ce dossier. Nous, au niveau de l'association, on a fait toutes les démarches possibles et inimaginables pour essayer de faire avancer les choses. On est dans la situation du pêcheur à la ligne. On a lancé une ligne partout, dans les associations d'aide à la précarité, dans les hôpitaux, dans les commissariats, dans les gendarmeries, un peu partout. Et on attend et aucune information ne remonte. Donc, on peut se poser des questions. Pour moi, la situation, c'est une situation de blocage. Et ce que j'attends de ce reportage, c'est justement qu'on ait des témoignages. Des témoignages qui nous permettent de rebondir et de pouvoir repartir sur des bases. Parce que là, actuellement, on est un peu dans une impasse.
Aucune nouvelle, aucune trace de Grégory, en dépit des recherches. Armelle sombre dans la déprime. Il y a quelques semaines, elle a emménagé près de Tours. Elle s'est rapprochée de sa famille. Il lui était devenu trop difficile de vivre dans la maison de Meaux où tout lui rappelait son fils.
Pour quelles raisons vous avez décidé de venir ici vous installer ?
Je ne supportais plus de rester seule dans mon appartement. Je ne pouvais même plus aller dans sa chambre. Je pouvais plus. D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui ai déménagé sa chambre, ses affaires. C'est ma sœur et ma nièce. Et puis, le soir, c'était l'horreur, quoi. Je ne pouvais plus.
Et ici ? Est-ce que dans cette nouvelle maison, vous avez fait une chambre ?
Oui. Oui, sa chambre est prête. Sa chambre est prête. Une partie de moi voulait déménager, une autre partie voulait rester là pour l'attendre. Mmh. Et puis, on m'a dit, de toute manière, ici, c'est la famille est là. Il a mon téléphone, donc voilà.
Si vous aviez un message à lui faire passer maintenant, là, d'ici, de cette région qu'il connaît bien, hein, avec cette famille qu'il connaît bien, oui. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire ?
Ben Grégory, reviens, on t'attend, on t'aime, tout le monde t'attend. Et j'espère qu'il ne faut pas qu'il ait de retenue pour revenir, qu'il vienne. Il n'y a aucun souci.
Est-ce que c'était un garçon qui culpabilisait ?
Oui, beaucoup. Beaucoup.
Il avait l'impression d'être à votre charge ?
Je ne lui ai jamais fait sentir, oui, mais au fond de lui, je pense que oui. Je pense que oui. Je ne sais pas si on connaît bien ses enfants. Hein. Mais la réaction, jamais j'aurais pensé qu'un jour, il puisse disparaître comme ça sans... Comment, sans donner de nouvelles, sachant que ben, je suis très près de mes enfants. Donc j'ai du mal avec sa réaction. S'il est parti de lui-même, j'ai beaucoup de mal.
Après la rupture sentimentale de Grégory, son cousin Julien lui a aussi tendu la main en l'hébergeant quelques semaines chez lui. Du même âge, Julien et Grégory étaient très proches. Julien est sans doute la personne qui le connaît le mieux.
Quand vous avez appris sa disparition,
ouais.
Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit tout de suite?
Moi, je n'ai pas été surpris. Enfin,
vous n'avez pas été surpris?
Non, pas vraiment.
Pourquoi?
Parce que ça faisait plusieurs échecs qu'il avait eus. Mais c'est vrai que là, la disparition totale, il n'avait jamais été jusque-là. Quoi. Mm-hmm. Mais ça ne m'a pas surpris outre mesure. Quoi.
Donc pour vous, Grégory est toujours vivant?
Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui.
Ça fait pas l'ombre d'un doute pour vous?
Oui, tout à fait. C'est la pression de la famille. Ils se sentaient à part, quoi.
À part?
Ouais.
C'est la pression de la famille pour vous?
Ouais, et puis de la société. Enfin, pas mal de choses, mais il est comme ça, Grégory. Donc,
pour vous, il est vivant?
Il est tout ce qu'il y a de plus vivant, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est peut-être parce que je l'espère aussi. Je l'apprécie et il reste avec moi. Donc on a partagé pas mal de choses ensemble, mais... Pour moi, oui, il est vivant.
Vous vous attendez un jour
à avoir à nouveau des nouvelles de lui?
Je suis pas sûr.
Pas sûr?
Non. Parce qu'après, plus on attend, et pire c'est, quoi.
Plus on attend, plus on a du mal à revenir, ouais. C'est ce que vous voulez dire?
Plus la pression est grande, plus le regard des autres est... s'accentue sur l'égoïsme qu'on a pu avoir, enfin, c'est-à-dire le fait de rien avoir, en avoir faire des autres. Et plus on attend, pire c'est, donc je sais pas s'il reviendra. J'ai envie de faire oublier d'être tranquille. Et... Alors c'est dur pour sa maman, certainement, hein. Mais s'il est plus heureux comme ça, qu'il reste comme ça.
Mm-hmm. C'est le message que vous auriez à lui faire passer, vous?
Ouais.
Grégory aurait-il été victime de la pression familiale? Il aurait donc pu disparaître volontairement pour y échapper, respirer ou s'émanciper. Je me demande si Armel a parfois eu le sentiment d'étouffer son fils.
Et les femmes, hein, les mamans, elles veulent toujours que leurs enfants, un garçon ou fille, réussissent. Est-ce qu'il est possible aussi qu'il ait senti une pression de ce côté-là?
Non.
Non.
Le principal pour moi, c'est que mes enfants soient heureux. Mm-hmm. Après, ce qu'ils font, bah, c'est leur choix, et puis voilà.
On a plus tendance à penser à l'écoute des récits, en tout cas du récit des uns et des autres, que peut-être qu'au bout d'un moment, il s'est dit il serait peut-être temps que moi, je prouve que je peux m'en sortir sans qu'on me tende la main.
Et il disait toujours, je m'en sortirai seul, je réussirai, mais je m'en sortirai seul.
Donc, il vous a déjà évoqué le fait que il s'en sortirait seul.
Ah ben, de toute manière, oui, il me disait toujours. Hein. Quand je lui parlais de psy, il me disait non, je m'en sortirais tout seul.
En tout cas, vous me tiendrez au courant de tout ça. Hein.
C'est sûr.
Le fils d'Armel a fini par redonner signe de vie après 378 jours sans nouvelles. Mais sans lever le mystère sur sa disparition. Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rasque et Kevin Ousty. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de nous suivre sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir, du lundi au jeudi, à l'antenne d'Europe 1, dans la libre antenne. À très bientôt.